Melody, la radio vintage forever.
Elle fut l'une de nos premières yéyés, une jeune fille de 17 ans devenue une star planétaire. En France, aux États-Unis, en Amérique du Nord ou au Japon, sa chevelure blonde et sa voix grave ont marqué des générations d'admirateurs. Venue d'un pays étouffé par le communisme, cette petite famille bulgare a profondément bouleversé le paysage de la chanson française. Aujourd'hui, la plus belle pour aller danser s'apprête à tirer sa révérence après 60 ans de carrière. Vous l'aurez compris, revenons aujourd'hui sur la vie et la carrière de Sylvie Vartan avec Frédéric Quinonero, l'auteur de Sylvie Vartan, Les chemins de sa vie. Bonjour Frédéric.
Bonjour Gilles.
Comment allez-vous ?
Ça va bien, merci, et vous ?
Ben, très bien, je suis ravi de vous retrouver sur le plateau de Mélodie Radio pour parler de cette immense artiste, hein, de Sylvie Vartan, auquel vous consacrez un livre, Les chemins de sa vie. C'est une artiste que vous avez toujours aimée, Sylvie Vartan ?
Oui, depuis l'enfance. J'ai d'abord aimé Johnny, et puis bah, évidemment, à l'époque, Sylvie était mariée à Johnny Hallyday, donc ça s'est fait naturellement. Donc, j'ai suivi également sa carrière, et puis, mais pas seulement pour ça. J'aimais beaucoup Sylvie également. J'allais la voir sur scène, et c'était quelqu'un que j'ai. Elle fait partie de mon panthéon d'idoles, oui.
Panthéon d'idoles de la chanson française, et d'ailleurs, je vous le disais juste avant, quel est votre plaisir démodé de la chanson française ? Un titre que vous aimez, mais que vous pensez quand même un peu démodé.
De Sylvie Vartan ou de n'importe qui ?
Qui vous voulez ?
Oh, ben, je sais pas, il m'arrive d'écouter Stone et Chardin.
Ah, Stone qu'on a reçu il y a quelques mois d'ailleurs sur le plateau de Mélodie.
Oui, mais c'est Stone que j'aime beaucoup d'ailleurs, qui est une fille absolument adorable. Qui m'arrive de rencontrer comme ça au hasard des salons de livres. Mais quand j'étais enfant, c'est vrai que j'étais assez amoureux de Stone.
Alors laquelle ? Le prix des allumettes, l'Aventura, Made in Normandie.
Oh, ma préférée, c'est oui, Made in Normandie, oui.
Un grand classique de 73.
Ouais.
Bon, en tout cas, revenons à Sylvie Vartan pour qui vous consacrez une biographie aux éditions Mareuil. Sylvie Vartan, les chemins de sa vie. Voilà, elle a eu une carrière incroyable, 60 ans de tubes et de chansons inoubliables. Et dire que tout a commencé dans un petit village de Bulgarie. Alors, vous me dites si je le prononce bien, Iskretz.
Iskretz, oui, c'était la clinique se trouvait là. En fait, les parents de Sylvie Vartan donc avaient fui Sofia. Enfin, le père donc de Sylvie travaillait à Sofia, mais il avait mis sa famille à l'abri donc dans un petit village des Balkans où. Parce que à l'époque c'est un petit peu compliqué l'histoire de la Bulgarie, mais avant d'être sous le joug communiste, la Bulgarie était alliée à l'Allemagne nazie, donc voilà. Donc c'était une époque assez difficile. Et quand Sylvie est née, elle est née donc dans cette clinique qui était la clinique des ouvriers à Iskretz, en 1944.
Et cette petite Sylvie, elle va 10 ans plus tard tout quitter pour se retrouver en France, mais pourquoi la famille Vartan a-t-elle décidé de partir de la Bulgarie ?
Parce que la Bulgarie s'est retrouvée ensuite sous le joug communiste, donc, et donc c'était devenu petit à petit invivable, insupportable, parce que les gens, il y avait de la délation, il y avait des gens disparaissaient pour. Il fallait admirer Staline, il fallait mettre le portrait de Staline sur les balcons, et si on n'était pas dans cette mouvance, ben on pouvait risquer
le goulag,
d'être arrêté, d'être oui voilà c'est ça.
Et donc elle arrive à Paris en 1954, ça doit être un bouleversement pour les Vartan.
Oui, c'est un bouleversement. Le père de Sylvie était né en France par un concours de circonstances. Ses parents, à l'époque, étaient partis se marier en France parce que leurs parents refusaient ce mariage, etc. Enfin bref.
Georges et Ilona Vartan.
C'est ça. Non, c'était le père de Georges.
Ah, le père de Georges, d'accord. Ok.
Voilà, donc le père de Georges et sa mère étaient partis se marier en France, et donc La mère de Georges a accouché de lui donc à Champigneul, en Moselle. Donc le père était français. Donc ça, ce qui a facilité en fait la demande de visa et le départ de Bulgarie pour la France. Et donc ils sont arrivés effectivement à l'approche de Noël, au mois de décembre, à Paris. Et donc c'est évidemment, c'est le pays de la liberté pour Sylvie qui avait que 8 ans, mais qui se rendait compte quand même au regard de ses parents et à l'émotion qui avait, quoi, et la pression aussi, parce que ils ont voyagé dans un train où ils ont été fouillés. Voilà, donc tant qu'ils n'étaient pas arrivés à Paris, ils n'étaient pas rassurés. Donc elle a ressenti toute cette tension, et l'arrivée à Paris, ce fut magique, puisque c'était à l'approche de Noël, et il y avait des sapins décorés, les grands magasins illuminés. Donc pour une petite fille, c'était assez formidable.
Et puis 7 ans plus tard, parce qu'on va avancer un peu dans la carrière et la vie de Sylvie Vartan. Voilà, son frère Eddy, qui commence à travailler dans la musique, rencontre un certain Carlos, qui est trompettiste, c'est ça ?
Et c'est ça, le... Ouais. Oui, oui, allez-y. Le frère d'Eddy avait commencé à faire de la musique en Bulgarie déjà.
D'accord. Hein,
donc, en France, donc effectivement, il jouait du cor d'harmonie et ensuite de la trompette. Et donc, il allait à l'époque, dans les années 50, c'était la mode du jazz et des caves de Saint-Germain. Donc, il fréquentait ces endroits. Et puis, à un moment donné, il a été enrôlé dans un orchestre qui jouait au Blue Note. Le Blue Note, c'était un cabaret de jazz vers les Champs-Élysées, auprès des Champs-Élysées. Et effectivement, il rencontre dans ces soirées-là, il rencontre Carlos, qui est le fils de François Zolto, hein, et qui à l'époque est un amuseur public, voilà, et qui adore le jazz aussi, et qu'on rencontre partout, à Paris, à Juan-les-Pins l'été, etc., qui est ami avec Johnny Hallyday également, qui a démarré en 60, lui, dans la chanson.
Eddy Vartan.
Oui, Eddy Vartan s'est fait une place et surtout il devient ami avec Franck Thénault et David Daniel Philippaki, et donc il se retrouve enrôlé aussi dans la maison de disques Decca, où il devient directeur artistique, et il s'occupe notamment d'un chanteur de rock qui fait des études dentaires, hein, qui s'appelle Frankie Jordan.
Et voilà. Et c'est là où on y arrive. Racontez-moi, c'est une histoire incroyable. Il cherchait quelqu'un pour faire un duo avec Frankie Jordan sur Panne d'essence, miraculeusement, ouais, c'est Sylvie qui a été choisie, ou qui a été poussée.
C'est ça. C'est ça, en fait, il cherchait pas. Au départ, il y avait quelqu'un qui était pressenti, qui était Gillian Nils. Donc, c'était une jeune starlette de l'époque qui faisait du cinéma, qui avait joué dans Les Liaisons dangereuses de Vadim et qui chantait également, donc avait un contrat de chanteuse avec Barclay.
Ouais.
Et donc, elle avait un contrat de chanteuse, un contrat à l'époque, c'était des contrats d'exclusivité, donc on ne pouvait pas se permettre de signer des contrats ailleurs, et donc elle s'est désistée au dernier moment pour ces raisons-là, donc le studio étant réservé, ça coûte cher, donc dans l'urgence, il fillait absolument remplacer Gillian Nils. Et Eddy Vartan a dit, mais pourquoi j'irai pas chercher ma sœur, elle est mignonne,
voilà.
elle sait chanter, voilà. Donc il est allé chercher Sylvie Vartan donc au lycée, elle a séché un cours de maths.
Entre 16h30, c'est venue... très précis, mais entre 16h30 et minuit, vous écrivez.
Oui. Et donc elle est venue, oui, parce que le studio était réservé à ces heures-là, donc il fallait absolument que combler le manque. Et elle est venue poser sa voix donc dans ce studio. Ça n'a pas été très évident, d'autant qu'on lui faisait prendre une voix au perché, alors qu'elle a une voix très grave, Sylvie.
Oui.
Donc elle est obligée de prendre cette voix au perché, parce que la partition était écrite pour Gillian Nils, qui avait une voix aiguë.
Eh bien, on va l'entendre tout de suite, Panne d'essence. Écoutez un petit extrait.
La voiture est en panne d'essence. Nous n'avons vraiment pas de chance. Pourquoi t'affoler ?
Je rentre à la maison.
Ça fait bien loin à pied.
Oh, je connais les garçons.
L'endroit est désert.
Je te vois bien venir.
Et il a tout pour plaire.
Il faut repartir.
La voix perchée, vous avez raison,
voilà.
Sylvie.
Ah oui, c'est une voix de dessin animé, là, carrément.
Et on la voit rouler les yeux comme... Comme ouais. Pas possible dans ce clip. Enfin, dans ce clip, ça devait être un Scopitone, certainement.
Oui, c'était un Scopitone. C'était même, je crois, ça avait été réalisé pour Discorama, il me semble. C'était pour une émission de télé. Ouais.
D'accord, ok. Ben justement, c'est, elle va commencer dans la chanson avec ce titre, Panne d'essence. Et voilà, avec Salut les copains, diffusé sur Europe 1, ça va propulser la jeune Sylvie et tout va très vite. Elle fait sa première télé, vous l'avez dit, Discorama, le premier 45 tours quand le film est triste. Première tournée, alors on l'adore et les auditeurs savent à quel point je l'aime, mais le grand Gilbert Bécaud. Et son premier Olympia en levée de rideau avec Vince Taylor. Ça va à une vitesse folle. Elle c'est se ça. Fait même renvoyer de son école parce qu'elle devenait une idole. Enfin, de son lycée.
Oui, parce que oui, elle se met la panique, quoi. Les journalistes, les fans, tout le monde se ruait. Et le lycée Hélène Boucher, c'était quand même un lycée de bonne réputation, très strict, etc. Donc ça foutait un petit peu le bazar. Ouais. Donc on l'a prié de rester chez elle et donc elle a arrêté ses études au grand dam de sa mère qui souhaitait pour elle une belle carrière. Qui n'imaginait pas chanteuse, évidemment. Donc, elle voulait qu'elle passe absolument son bac, ses deux bacs, à l'époque, il y avait deux bacs. Et donc, elle a arrêté avant parce que Gilbert Bécaud, justement, lui a proposé de partir en tournée avec elle. Et donc, les parents ont accepté, Ilona a accepté à condition que Eddie Vartan la chaperonne. Voilà.
Et puis, c'est parti, elle part sur les routes de France. On est en 61, là. Je ne sais pas si on l'a dit.
C'est ça, 61. 61, c'est les débuts. Donc, il y a les deux duos, Panne d'essence et J'aime ta façon de faire ça.
Ouais.
Et ensuite, Daniel Philippaki, qui aime beaucoup donc, cette jeune fille, lui fait signer un contrat de chanteuse. Donc, elle fait son premier 45 tours, 4 titres en solo, avec pour titre vedette Quand le film est triste.
D'accord. Et, ouais. Et puis après, l'année d'après, en 62, elle fait une rencontre fantastique, enfin celle qui va marquer sa vie en tout cas, à l'Olympia. Alors c'est Johnny, on va couper le suspense rapidement.
Oui.
Il aurait dit à son frère dans les coulisses de l'Olympia, cette fille-là, je me la ferai bien.
Johnny a toujours raconté cette histoire-là. Il serait venu à l'Olympia donc voir Vince Taylor, qui était son concurrent et néanmoins ami donc dans le rock'n'roll et en première partie donc il y avait cette jeune fille que Johnny observait depuis les coulisses à travers le rideau. Eddie Vartan était à côté de lui, donc il connaissait Eddie Vartan de vue comme ça, mais il ignorait son nom et il ignorait surtout qu'il était le frère de cette chanteuse.
Ouais.
Comme deux garçons peuvent échanger ce genre de trucs, il a dit voilà, cette fille-là je me la ferai bien. Et Eddie Vartan n'a rien dit sur le moment, et puis quand Sylvie est sortie de scène, il a interpellé au passage, il lui a dit Johnny, je te présente Sylvie, je te présente Johnny Hallyday, Johnny, je te présente ma sœur.
Et Johnny,
serait devenu blême, et oui, voilà.
À offert des
il aurait offert des roses, oui. C'est ça.
Et il fait déclarer sa flamme, ça c'est merveilleux, par son manager à Genève.
C'est ça, Jean-Pierre Bloch, oui, c'est ça.
Mais c'est une histoire de fou. Donc, Johnny, qu'on pense séducteur, qu'on pense intouchable, maître de ses dames, va déclarer sa flamme à l'une des femmes de sa vie par son manager.
Oui, c'est précisément ce qu'il n'y a plus d'ailleurs à Sylvie, et qu'il n'y a plus aussi aux parents de Sylvie, parce que les parents de Sylvie étaient un petit peu, oui, Johnny Hallyday, ce chanteur qui se roule par terre, qui porte des blousons noirs, en fait, ils avaient un petit peu peur, ils appréhendaient quand même, et puis Sylvie a présenté Johnny à ses parents, et ils ont vu arriver un garçon timide, très poli, propre sur lui, enfin le gendre idéal, quoi. Et Ilona Vartan, donc en particulier, a été absolument charmée.
Ouais.
Et Sylvie, c'est ce qui lui a plu justement, qu'il ne ressemble pas à l'image qu'il donnait de lui.
Et il cache pourtant cette relation. Sylvie et Johnny, tout le monde a l'air d'être au courant, la presse commence à en parler, mais pourquoi ils s'amusent à cacher comme ça ? Est-ce que c'est pour garder le statut de star et plaire aux jeunes qui se voient en couple avec eux ?
C'est-à-dire qu'assez rapidement, Johnny se trouve un manager, son colonel Parker à lui, qui s'appelle Johnny Stark.
qui était celui de Mireille Mathieu.
Qui sera par la suite le manager de Mireille Mathieu. Mireille Mathieu qui sera beaucoup plus, on va dire, malléable.
Okay.
Johnny Sylvie, il devient le manager de Johnny et Johnny lui demande également donc, d'être le manager de Sylvie Vartan puisque c'est sa fiancée. Et donc Johnny Stark s'occupe de ses deux idoles. Et dans l'esprit de Johnny Stark, une idole devait être célibataire, ne devait pas avoir d'enfant. Il fallait absolument être disponible pour ses fans. Ouais. Voilà. Donc, c'était mieux de cacher l'histoire, même si Johnny ne pouvait pas se passer de Sylvie et Sylvie ne pouvait pas se passer de Johnny, à tel point qu'ils font des tournées ensemble. Johnny, qui tourne un film en Camargue, d'où viens-tu, Johnny, demande à ce qu'on écrive un petit rôle pour Sylvie, pour qu'elle puisse venir également en Camargue le rejoindre. Et donc, on lui rajoute le rôle de la petite amie du héros. Donc, voilà, et il se retrouve en Camargue. Ensuite, il y a cette fameuse nuit de la Nation à Paris,
voilà.
À laquelle ils participent tous les deux. Enfin, ils sont tout le temps ensemble.
Et quelques mois après cette nuit de la Nation, Johnny et Sylvie décident de se fiancer.
C'est ça. Donc, alors ils sont fiancés, ils se fiancent dans l'intimité, hein, donc ouais. En famille. Et puis ils l'annoncent une fois que la chose était déjà faite. Mais Johnny surtout ne souhaitait pas se officialiser aussi les fiançailles, le mariage, parce qu'il savait qu'il allait devoir partir à l'armée. Donc il pensait pas se marier avant son retour de l'armée.
L'idole des jeunes à l'armée, ça devait être quelque chose. Et puis même Sylvie qui a un passe-droit pour venir. Voir Johnny ouais. à la caserne.
Oui. Ben, y a eu beaucoup d'arrangements, hein, donc ça a fait beaucoup de publicité à l'armée à ce moment-là. Ouais. Une idole comme Johnny, surtout à ce moment-là, après les accords d'Évian, après la guerre d'Algérie, tout ça, l'armée avait plus tellement bonne presse, je crois, et donc ça a fait du bien de que Johnny se montre en militaire comme ça
sur les
couvertures de magazines, pochettes de disques, bien sûr, les pochettes de disques, le pénitencier, voilà, ces disques de l'époque où il pose en militaire, mmh. et en échange, évidemment, donc
on
s'est montré plutôt arrangeant, voilà. Donc Johnny pouvait aller enregistrer pas forcément quand il voulait, mais quand il a régulièrement, donc il a continué à sortir des disques, il faisait quelques concerts aussi, quelques spectacles là-bas sur place, hein, à Offenburg ou à Strasbourg où il se trouvait. Et puis Sylvie, il avait loué un petit studio aussi proche de la caserne, et Sylvie s'y rendait régulièrement, peut-être tous les week-ends, oui, je pense. Donc il se retrouvait régulièrement là-bas.
Et puis l'année d'après, alors Johnny a terminé il a terminé son service militaire, mais il y a le mariage.
C'était pendant le service militaire,
justement, ça lui a fait
une permission.
D'accord.
Et oui, parce qu'on avait une permission plus longue si on se mariait, donc il en avait profité donc pour avoir une semaine de perm en se mariant donc le 12 avril 1965. Hein, il était encore à l'armée.
Et ça a été un choc total, ce mariage. Les gens se cachaient dans
total.
Les plafonds, enfin, sur les toits.
Ah oui. Et oui, parce que Sylvie avait trouvé un manoir donc dans un petit village de 300 habitants qui s'appelle Loconville dans le Vexin, donc ouais. Dans l'Oise. Et donc le mariage a eu lieu là. Donc, mais ce petit village n'avait jamais vu une telle folie. Les gens venaient en car, en vélo, en voiture, en mobylette. Il y avait dans tous les champs, il y avait des véhicules garé, et voilà, donc le village complètement envahi.
Tout ça pour voir Johnny et Sylvie, eux qui rêvaient d'un mariage en intimité, ils étaient pas ravis, vous l'écrivez hein, dans votre ouvrage.
Ah oui.
Les chemins de sa vie.
Ça c'est vrai.
Furieux,
alors on ne sait pas qui est... Ah oui, Johnny voulait arrêter tout. Il avait dit non, ben on va pas se marier, c'est pas possible. Dans un tel jeu chahut, c'est pas. Puis finalement, bon, ça s'est fait quand même. Donc c'est devenu le mariage du siècle. Mais je pense que quelqu'un a vendu la mèche. Alors Selon les sources, ce serait le curé ou le maire du village pour faire de la publicité au village. Mais je pense que la version la plus crédible, c'est de dire que c'était le manager commun aux deux artistes, Johnny Stark, qui a fait un bon coup de publicité.
Mais après, les tournées vont reprendre. Et Sylvie, qui rêve, vous l'écrivez, qui rêve d'une vie de famille, comme elle a connu avec ses parents, enfin, voilà, et qu'elle a installée en France, d'ailleurs, à Loconville, elle rêve d'une famille, mais voilà, il s'éloigne au travers des tournées. Et en 66, ce côté famille reprend le dessus. Et David, je crois que vous l'écrivez d'ailleurs, le roi David voit le jour le 14 août.
66.
Et ouais, le 14 août 66, et elle en voulait 4 avec Johnny.
Et oui, mais avec Johnny, effectivement, c'était, c'est devenu ensuite quelque chose de... ils se sont, comment dire, aimés, en fait, en public, quasiment, quoi. Il y avait toujours la presse, il y avait toujours les journalistes, ils étaient toujours traqués, et puis il y avait effectivement chacun sur les routes, souvent. Alors, ils essayaient d'organiser leur planning pour pouvoir se retrouver dans plusieurs endroits pendant leur tournée, mais ils se voyaient peu, quoi, ils se voyaient assez peu. Et Johnny et Sylvie, en plus, a mené une carrière à l'étranger. On a dit le Japon, mais aussi en Italie. Elle allait chanter en Allemagne, en Espagne. Ils allaient un petit peu partout. Mm-hmm. En Amérique du Sud aussi. Ils ont fait des spectacles.
Mais Johnny n'est
Québec.
Pas présent. C'est l'arrivée de cet enfant, ça ne changera rien. Elle va même penser à divorcer,
ah,
Sylvie.
Oui. Ah oui. Non, mais là, en plus, Johnny, au retour de l'armée, il a eu toute une période comme ça où il fallait qu'il revienne numéro un.
D'accord.
Parce que quand même, toute cette période à l'armée, il y a eu de la concurrence. Il y a eu Antoine, on en a parlé tout à l'heure, qui est arrivé avec sa chanson « Les élucubrations » et qui se moquait un petit peu de lui.
Ah oui, il y a toujours une guerre entre Johnny et Antoine.
Oui, mais enfin une guerre sympathique, quoi, on va dire, dans les chansons. Et puis il y a eu surtout un mouvement venu d'Angleterre. On était en plein Swinging London. Et puis des artistes français souvent qui étaient auteurs, compositeurs, interprètes, ou qui faisaient appel à des compositeurs et à des auteurs, et qui n'adaptaient plus les chansons anglo-saxonnes, comme Michel Polnareff, Jacques Dutronc. Ce sont des gens qui sont arrivés dans le paysage musical français et qui ont fait beaucoup d'ombre, on va dire, ou de tort, en tout cas, à Johnny. Donc il a fallu qu'il rame pour retrouver sa place de numéro un, et pour ça, il a fallu qu'il travaille, qu'il parte en tournée, il enregistrait beaucoup à Londres. Il voyait pas Sylvie, et c'est une époque où on plongeait aussi facilement dans les substances, voilà.
Et oui, il pense même à ce suicide, il fait même une tentative de suicide.
C'est ça, parce qu'il revient de Londres, justement, où il a enregistré la génération perdue et ce tube qui est Noir c'est Noir. Il revient à Paris, il apprend dans l'avion que Sylvie veut le quitter, qu'elle a demandé le divorce, qu'il doit une certaine somme aux impôts, enfin, tous les malheurs du monde lui tombent sur la tête. Il avait en plus certainement abusé de substances, de LSD, enfin bref. Et quand il arrive chez lui, il est complètement déprimé, désespéré. Il rentre dans la salle de bain et il se taillade les veines. Il avale un flacon d'éther et bon... c'est plus un appel au secours qu'une tentative de suicide, parce qu'il n'est pas tout seul. Enfin, il est enfermé dans la salle de bain, mais dans la pièce à côté, il y a Jean-Pierre Bloch, son secrétaire, il y a Tiki Olgado aussi, qui était dans son entourage à l'époque, etc. Et puis, donc, on le rapatrie aux urgences, et puis voilà.
Sylvie,
elle souffre de cette situation. Elle veut évidemment un père pour son fils, et pas quelqu'un qui a pas un courant d'air. Donc, et c'est sa mère, c'est Ilona qui la convainc quand même de rester avec Johnny, que ça en vaut la peine, et que voilà. Et donc, Ilona aimait beaucoup Johnny Hallyday. Donc, l'histoire a continué et l'histoire a continué. Bon an, mal an, comme ça, mais pas pendant longtemps, jusqu'en 80 où ils divorcent. Mais ça a toujours été Johnny et Sylvie, des grandes séparations et des grandes retrouvailles tout le temps, parce qu'il y avait une passion folle et quelque chose qui était plus fort que tout.
Et on le voit d'ailleurs au travers de deux titres, Il y a deux filles en moi ou Par amour et par pitié. Tenez, on va écouter par exemple Par amour et par pitié.
On ne jette pas un vieux jean usé. On recolle un livre abîmé. On regarde une photo ratée.
Voilà, on comprend qu'elle lui pardonne tout. Elle lui pardonne même ses infidélités. Mmh. Elle qui pleure dans Il y a deux filles en moi, elle pardonne tout à Johnny. Et ils se retrouvent comme
Oui, effectivement, elle pense, elle a cette force de caractère aussi de penser que à partir du moment où elle reste la femme de sa vie, le reste ne compte pas. Ce sont des aventures. Et puis, je pense que quand on est marié à un homme qui a une telle notoriété et un tel charisme aussi, je pense qu'on est obligé de faire des concessions, sinon ça ne dure pas.
Tout à fait. Et on va poursuivre dans la carrière de Sylvie Vartan et arriver en 1968, où il y a deux gros tubes qui sortent, bien évidemment Comme un garçon. Ça repropulse encore une fois la carrière de Sylvie. Dans cette année 66, il y a aussi des accidents. Elle perd son amie Mercedes. 68. Elle perd son amie Mercedes. Et fin 68, il y a un titre. Voilà, c'est, je pense, et vous me direz si vous êtes d'accord, le titre qui colle à la peau de Sylvie Vartan et qui la représente le plus. Écoutez. La Maritza, c'est le titre de Sylvie Vartan.
Ça a une belle histoire, l'histoire de la Maritza. C'est le premier Olympia en vedette aussi de Sylvie Vartan. Jusqu'alors, elle avait fait des Olympias en première partie, notamment celui de 67 qui était en première partie de Johnny Hallyday. Puis, au final, ils se retrouvaient sur scène pour un duo. Là, 68, pour la première fois, elle est en vedette à l'Olympia et Jean Renard, qui est son directeur artistique, qui lui a déjà écrit Par amour, par pitié avec Gilles Thibault, qui était un auteur fabuleux, qui a écrit Que je t'aime à Johnny, par exemple, et Jean Renard, qui en a composé la musique. Donc Jean Renard cherche à une chanson emblématique, justement, pour Sylvie. Elle est assez dans le rythme, c'est l'époque Tamla Motan, etc. Donc elle imagine un spectacle qui bouge, où ça danse pas mal, etc. Mais Jean Renard, lui, pense quand même qu'il lui faut une chanson qui rallie le public et qui... Il pense à Amsterdam de Brel. Il pense que Brel, quand il a chanté à l'Olympia et fait ses adieux, il y avait une chanson marquante qu'il avait créée à l'Olympia qui était Amsterdam et toute la salle s'est élevée.
Il ne l'aimait pas d'ailleurs.
Oui, c'est ça. Et il voulait la même chose pour s'il s'est dit, il faut trouver une chanson emblématique et qui lui colle à la peau, qui lui appartienne, qui soit intemporelle. Et il avait imaginé une musique.
Ouais, voilà.
Il trouve la musique, voilà, il a imaginé une musique un petit peu slave, comme ça, lente et slave, un petit peu langoureuse, lancinante.
Et la magie opère sous les paroles d'un grand monsieur de la chanson française.
C'est ça. Donc, il soumet cette musique à Pierre Delanoë, auteur de Pour Béco, notamment, de plein de chefs-d'œuvre.
Béco, notamment Fugain, tous.
C'est ça.
Tous passés sous la plume de Pierre Delanoë.
Oui, Il est mort le soleil aussi pour Nicoletta. Enfin, et donc, et Pierre Delanoë, qui connaissait vaguement l'histoire de Sylvie, est allé chercher dans ses dictionnaires, etc. Il a appris que il avait un petit fleuve ou en Bulgarie qui s'appelait Maritza, qui s'écrivait avec un Z ou un S. Et Maritza, la sonorité lui plaisait beaucoup. Il trouvait ça assez, assez joli. Ouais. Et donc, il a écrit autour de ce titre et il a résumé en quelques quatrains l'histoire de Sylvie et la chanson.
La Maritza, c'est.
Pardon.
Dès le début de la chanson, la Maritza, c'est ma rivière, comme la Seine est la tienne. Pouah, là, ça y est, on voit Sylvie Vartan.
C'est ça, c'est elle, et c'est une chanson qu'elle avait fait écouter à son père, et elle raconte souvent que c'est c'est la première fois qu'elle voyait son père verser une larme. Ouais.
À cette Olympia 68.
En écoutant cette chanson-là. Oui.
Et c'est là où vous dites d'ailleurs qu'elle devient une véritable, elle n'est plus l'idole yéyé, c'est là qu'elle devient une chanteuse. Et la chanteuse qu'elle restera toujours, la chanteuse, la showwoman, je ne sais pas si ça se dit, la showwoman avec de grands spectacles à l'américaine, elle change véritablement
en
68.
Oui, voilà, parce que le statut d'une chanteuse à l'époque et encore toujours aujourd'hui, hein, ceci dit, passait par la scène. Mmh. La scène, c'était l'étape obligatoire. Donc, c'est sur scène qu'on démontrait si on était vraiment une chanteuse ou pas.
Et puis, en la fin des années 70, en 79, il me semble, c'est la consécration là aussi. Elle n'est plus une idole liée déjà depuis quelques années, enfin même. plus de 10 ans, elle devient une véritable chanteuse et notamment il y a un succès qui revient comme ça, presque inattendu. Écoutez.
Nicolas.
Nicolas, mais cette chanson, elle est extraordinaire. Elle mêle à la fois sa vie avec l'autre Maritza, mais c'est également une pure fiction, ce Nicolas. On a dû souvent lui demander, mais qui est ce Nicolas, Sylvie?
Oui, probablement. En tout cas, elle détestait cette chanson-là.
Elle ne l'aime pas.
Mais bon, elle ne l'aime pas. Et pendant des années, elle ne la chantait pas sur scène. Mais comme le public a toujours raison... Et elle a fini par lui faire plaisir et la rechanter ensuite sur scène. Mais non, c'est une chanson qu'elle n'aimait pas. Ouais.
Elle ne connaît pas l'autre Maritza, il garde la vraie là-bas. C'est magnifique ça ça décrit encore Sylvie.
Oui. Puis moi, la chanson, la musique, enfin le slave, c'est une chanson que j'aimais beaucoup et bon, ça a été quand même un énorme tube en 79. Un des derniers gros tubes de Sylvie en plus.
D'accord. Ouais, là où elle vend énormément de disques.
Ouais, ouais. Oui, c'est ça. Après, bon, les années 80 vont être un petit peu plus difficiles pour tout le monde. Hein,
voilà, on y arrive, France le divorce Gall, avec Johnny.
Oui, c'est ça, le divorce avec Johnny. Puis même les chanteuses en général de cette période-là, qui ont démarré dans les années 60, vont connaître quand même une petite traversée du désert dans les années 80, que ce soit... Sheila, Françoise Hardy,
même Dalida,
Sylvie Vartan,
à part
même Dalida.
Mourir sur scène, il n'a pas marché tout de suite. Hein. Elle a marché après sa mort, si je puis dire, quand le public a redécouvert cette chanson en face B. Ouais.
Oui,
enfin, elle a marché quand elle est passée à 20h du journal. Ça a commencé à se vendre un peu, mais après, voilà, Dalida aussi a souffert de ça.
Oui, en fait, il fallait trouver quelque chose, se réinventer, relancer sa carrière, ce qu'avait réussi à faire France Gall. En rencontrant Michel Berger, donc faire de nouvelles rencontres. Françoise Hardy aussi avait relancé sa carrière avec...
Jonas ?
Oui, c'est ça, déjà avec Michel Berger en 73. Oui.
Oui.
Et voilà. Donc, pour Sylvie, on restait quand même dans le même style musical et dans le même style de spectacle. Le vrai tournant pour Sylvie a eu lieu... je dirais, en 90, quand elle retourne en Bulgarie. Et là, on découvre une nouvelle Sylvie. Et là, elle va toucher au cœur le public de façon beaucoup plus intime. Mmh. Et elle va, du coup, enchaîner avec des disques qui vont être un peu plus intimes également, des spectacles dans des bonbonnières, dans des endroits plus chauds.
Oui, c'est ça.
Je
m'étais posé une question en lisant votre ouvrage, hein, Sylvie Vartan, « Les chemins de sa vie ». Le concert en Bulgarie, alors elle a refait sa vie, hein, Sylvie, elle est avec Tony Scotti, elle est divorcée de Johnny, Johnny en a beaucoup souffert, il a d'ailleurs fait un album, je crois, comment je l'avais noté, je l'ai en plus,
plusieurs,
t'ai tant aimé.
Plusieurs.
Non mais un album, aimé, un oui. album qui il parle que de Sylvie cet album, hein. Quand je l'écoute cette chanson, je t'aimais, oui. Pas facile, ouais. Voilà, j'ai retrouvé.
C'est pas facile, ouais. C'est pas facile de vivre sans toi, oui, c'est
voilà,
ça.
Voilà, donc Johnny chanson, souffre, mais... Sylvie refait sa vie, ouais. Elle se marie, Johnny aussi, mais elle se marie avec Tony Scotti en 84, et en 92, c'est ça que vous le faites savoir, sentir dans le livre, il y a un véritable changement. Quand elle retourne en Bulgarie, ce concert à Sofia, devant un public qui ne la connaît pas et qui, elle, finalement, elle ne le connaît pas non plus, elle change complètement, Sylvie Vartan. C'est un véritable tournant dans sa carrière.
Le masque tombe un petit peu, on va dire. Et la réserve qui a toujours été ça, on va dire, c'est une forme de pudeur chez elle, une forme de timidité aussi. Ouais. C'est quelqu'un de très timide. Et je pense aussi cet héritage de peut-être des Bulgares, je ne sais pas, mais en tout cas de ses parents, de savoir être pudique, de ne jamais montrer trop ses sentiments, ses émotions. Et là, en Bulgarie, on découvre effectivement une Sylvie qu'on ne connaissait pas, qui se lâche, quoi, qui pleure, émouvante, touchante, qui reçoit ce. Ça doit être. C'est difficile de trouver les mots pour expliquer ce qu'on peut éprouver quand on a été exilé d'un pays à 8 ans et qu'on y retourne à l'âge adulte aussi longtemps après.
Et on le voit notamment dans le concert, j'ai vu un extrait où quand Sylvie Vartan chante la Maritza, à un moment elle parle d'un oiseau qui s'appelait Liberté. Non. Il y a des paroles dans la...
Les oiseaux sont partis sur les chemins de l'espoir. C'est ça, les oiseaux sont partis sur le chemin de l'espoir. Oui.
Et au moment où
nous, on les a suivis à Paris.
Et quand elle dit, je ne sais plus exactement le passage, il m'est sorti de la tête, mais quand elle parle de liberté, vous avez toute la
liberté.
Salle, tout Sofia, ouais. Toute la salle dans laquelle elle chante, qui applaudit. Ce peuple bulgare la reconnaît immédiatement, elle fera beaucoup pour lui d'ailleurs, vous l'expliquez dans votre livre. Mais il adopte et il la reconnaît immédiatement.
Ce retour ne pouvait se faire pour elle qu'après la chute du mur de Berlin, qu'après la disparition de du bloc communiste, en fait, la chute de ce mur qui en a entraîné d'autres par la suite. Mais bon, c'est une autre histoire. Mais elle a pu retourner en Bulgarie à ce moment-là. Elle n'y serait pas retournée sinon. Ouais. Voilà. Il fallait qu'il y ait cette opportunité-là.
Et elle est adoptée par ce peuple qui l'a vue naître.
C'est ça. Après, ce sera. Elle continuera régulièrement de retourner là-bas, d'aller là-bas. Elle créera des amitiés aussi là-bas. Elle adoptera sa fille.
Darina. Ouais.
Voilà, donc elle ira la chercher à l'orphelinat, à Sofia, en Bulgarie. Elle voulait absolument avoir une fille qui est le même sang bulgare qu'elle, les mêmes origines. Ouais. Voilà, c'était important pour elle, c'est quelque chose d'essentiel, les origines, la famille, les parents. Elle est très famille, Sylvie, très... Pour ça qu'avec Johnny, au bout d'un moment, ça ne pouvait plus coller. Il lui fallait construire une famille.
Elle le dit, d'ailleurs je me posais la question, au fil de votre livre, on comprend que Johnny, ce n'est plus son amour, ça devient un membre de sa famille, un frère.
Un enfant même.
Un enfant, d'accord.
C'était comme mon deuxième enfant, elle disait, après David. Ouais. Parce qu'il fallait, le consoler. C'est Johnny, c'est compliqué. Hein. C'est quand même quelqu'un qui a souffert de l'abandon et qui a toujours été en quête d'amour, d'un père, d'une mère. Il lui fallait absolument Lui aussi était en quête d'une famille. Le problème, c'est que même quand on lui apportait une famille, comme Sylvie l'avait fait avec ses parents, son frère, etc., il était incorrigible, quoi.
Il
c'était quelqu'un qui. Et puis c'est ça, oui. La grande histoire de la vie de Johnny Hallyday, c'est la scène et le public. Et ça, je pense qu'il y a peu de. Il y a peu de femmes qui l'ont compris. Il fallait accepter ça. Voilà, il fallait accepter ça.
Et justement, écoutez, pour ces 50 ans, peut-être l'un des plus beaux duos. Il y en a un troisième qui arrivera juste après. Cette magnifique chanson.
Que tu l'aimes, je sais, tu dis vrai. Et pourtant, moi je t'aime. Bien plus fort en secret. Un matin, quand elle partira, quand tu pleureras, dis-toi bien que tu vivais tes tendres années.
Tes tendres années. Quelle magnifique chanson pour les 50 ans de Johnny. Alors, c'était une chanson des années 60, et Sylvie l'interprète, c'est émouvant. Il y a quelque chose qui se passe dans ce regard.
Il y a quelque chose qui se passe dans tout court. C'était le clou de la soirée. Hein. C'est ce Parc des Princes qui est immense, hein. Une foule immense. Et tout à coup... Sylvie qui arrive comme ça sur une décapotable qui traverse le pont de Brooklyn reconstitué, descend.
Regardez cette fille-là, c'est ça
il chante et elle est terrible, cette fille-là, elle est terrible. La voiture est terrible. Et donc, on voit la voiture et Sylvie. Et puis Sylvie descendre à travers un ascenseur translucide dans une robe rouge velours, somptueuse, magnifique, et s'approcher tout doucement de Johnny pour chanter a cappella et tendres années. Tout à coup, un silence de cathédrale dans ce stade, les gens suspendus aux lèvres de Sylvie, et du coup elle aussi tétanisée d'un seul coup, parce que ça doit faire quelque chose, tout à coup ce grand silence, et on sent les gens émus. Ouais. Émue et suspendue comme ça, et donc elle s'est accrochée au regard de Johnny, aux yeux de Johnny, pour tenir le choc, et on voit tous les deux qu'il y a toute une histoire entre eux quand même, hein. Et c'est à ce moment-là on la voit, toute cette histoire-là, elle surgit.
Et oui, 1993,
Les yeux même de Johnny qui se mouillent un peu, et un petit sourire au coin des lèvres pour ne pas pleurer. Enfin bon, c'est quand même très émouvant.
Et c'était aussi un beau souvenir pour Sylvie, puisque vous l'avez écrit dans les années 80 ou fin 70. C'est la première fois que David, Johnny et Sylvie étaient sur scène tous les trois. Et là, ils se retrouvaient dans ce Parc des Princes. Il y a même, je ne sais plus où j'avais lu ça, il était prévu d'une tournée à trois qui ne s'est jamais faite. C'était la famille Hallyday, parce que c'est le clan Hallyday qui était réuni au Parc des Princes en 93 là.
Oui, c'est ça. Et Dieu sait si pour Sylvie c'est important. David, c'est vraiment la prunelle de ses yeux, voilà. Et de le voir chanter avec son père. Et donc ils ont fait un duo avec
sur
Mirador, version franco-anglaise, et ensuite David a accompagné Johnny à la batterie sur Oh ma jolie Sarah, et Sylvie assistait aux répétitions, et on sentait à son regard la fierté et la tendresse pour son fils. Elle était fière que David joue aussi bien, en plus, Ma jolie Sarah avec Johnny.
Avant de se quitter, j'aimerais vous faire écouter un duo qu'elle a fait avec Johnny en 2009. Donc elle a été au Stade de France dans son tour 66, mais lui aussi est venu chanter avec elle. Et je crois que c'est quelques mots qu'ils s'échangent, et puis le début de ce duo résume bien leur relation. Écoutez.
C'est la musique sur laquelle on va chanter, ça.
Oui.
C'est ça ?
Oui, c'est ça.
Mais non, c'est du sérieux.
Bah oui, c'est sérieux. L'amour, c'est sérieux. Tu sais,
Bon, alors chante.
Le ciel bleu sur nous peut s'effondrer, et la terre peut bien s'écrouler. Peu m'importe si tu m'aimes, je me fous du monde entier.
Tant que l'amour inondera mes matins, que ton corps frémira sous mes mains. Peu m'importe les problèmes, mon amour, puisque tu m'aimes.
L'hymne à l'amour, Johnny Sylvie, en 2009. Ça en dit long, hein.
Ah, c'est très émouvant, ça. Ouais. Mais c'est le dernier duo qu'ils ont fait ensemble.
D'accord.
Et Johnny avait failli mourir aussi, hein,
avec
à cette époque-là. Et... oui, ouais, il en avait réchappé de justesse. Et ce qui était émouvant aussi, c'est dans la chanson, il y a cette phrase où elle dit « Si tu meurs, moi je mourrai aussi. » Et Johnny fait non avec le doigt, comme ça.
D'accord.
C'est ça. Quand on le revoit aujourd'hui, c'est assez émouvant. Mm.
Et vous les avez écrit d'ailleurs, Johnny lui dit « J'ai mis du temps à venir, mais je suis là, à ce moment-là. »
Oui, ouais. Et oui, mais oui, c'était compliqué aussi. Hein. Johnny a eu pas mal de... c'était compliqué pour lui de voir sa fille. Il donnait des rendez-vous à Laura en cachette pour aller manger en tête-à-tête avec elle au restaurant. Donc, j'imagine que pour revoir... Une ancienne de ses femmes, ça devait être encore plus compliqué, voilà. Mais effectivement, comme ils font le même métier, c'est la chanson toujours qui les a réunis, et c'est très bien comme ça. Après le divorce, ils se sont retrouvés. D'ailleurs, c'est de ils ont jamais chanté autant ensemble, hein, de duo, qu'après avoir divorcé finalement. Ils se sont revus souvent sur scène. Enfin non, je dis ça, mais ils ont quand même fait des tournées ensemble et à l'époque où ils étaient mariés. Mais ils ont continué à se revoir régulièrement quand même.
Ils ont passé le Noël ensemble.
Pour chanter ensemble.
L'année du divorce.
Oui. Ouais, c'est ça. Oui, oui. Et oui, parce que il faisait partie de la famille. Voilà. C'était ça. Quand on lui demande. Elle dit ça, elle dit que Johnny fera toujours partie de son ciel. Et elle disait qu'on ne désaime pas, on aime autrement, mais quand on a aimé quelqu'un, on ne le désaime pas.
C'est très beau. c'est...
Ouais.
En tout cas, vous lui rendez bien hommage à Johnny, mais aussi à Sylvie, bien sûr, dans ce livre que je vous remontre, Sylvie Vartan, Les chemins de sa vie, une biographie hommage aux éditions Mareuil par Frédéric Quinonero. Voilà, une grande chanteuse qui va tirer sa révérence voilà, à la fin de l'année, et ça se poursuivra jusqu'en 2025.
Oui, il y a des prolongations. Alors, c'est au Palais des Sports, au Dôme de Paris, donc en novembre 2024, et elle refait des prolongations ensuite en 2020, début 2025 au Palais des Congrès.
Voilà.
Alors, on peut penser qu'elle va boucler la boucle. Enfin, moi, je le souhaite, hein. Par là où tout a commencé, c'est-à-dire à l'Olympia.
Ah.
Voilà, ça serait bien.
Un Olympia.
Elle fait les choses à rebrousse-poil, Dôme de Paris, Palais des Sports, donc Palais des Congrès, Olympia.
Olympia en intimité.
L'intimité
de 2500 places ou 2000 et quelques places, ouais.
Oui, un petit comme ça, une petite bonbonnière pour être, comme elle dit, plus près des yeux, plus près du cœur, voilà.
En tout cas, merci Frédéric Quinonero d'avoir répondu à voilà, ces quelques questions, d'avoir partagé la vie de Sylvie Vartan dans votre ouvrage et avec nous aujourd'hui sur Mélodie Radio.
Merci à vous.
Allez, on se quitte d'ailleurs sur voilà, un peu d'instrumental, un petit rien, une petite chanson de Sylvie Vartan. À très bientôt sur Mélodie.
Mélodie. La radio vintage forever.